tous en mode bonne conduite. Soyez prudents sur la route. Les accidents de la route tuent 1,35 million de personnes dans le monde chaque année, soit un mort toutes les 21 secondes. Du 1er octobre au 1er novembre, retrouvez des interviews, reportages, messages d'information et de prévention sur InfoRC. Tapez www.inforc.fr pour retrouver la web radio. 88.6 et 97.2 pour retrouver les fréquences d'InfoRC. Tous en mode bonne conduite, une action soutenue par Point S, la carrosserie Vernet et la préfecture de l'Ardèche. Bonjour et bienvenue sur InfoRC. Cette semaine, nous parlons sécurité routière. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les nouveaux modes de déplacement. Au cours de cette émission, nous nous rendrons à l'atelier Tous en Selle, mené la semaine dernière dans le cadre de la semaine de la mobilité à la médiathèque intercommunale Jean Ferrat. Cet atelier était proposé aux jeunes à partir de 6 ans pour les sensibiliser à l'utilisation du vélo. Nous sommes également allés à l'atelier Rouler Senior. Nous y avons rencontré Hélène Noiret de la communauté du bassin de Aubenas qui organise cette semaine de mobilité. Et nous accueillons dans nos studios d'InfoRC Yann Barakan. Bonjour Monsieur Barakan.
Bonjour.
Vous êtes assureur. Je vous laisse nous en dire un peu plus sur votre métier et ce que vous proposez comme contrat.
Alors moi, je suis intermédiaire d'assurance. Je fais le lien entre les assurés et les compagnies d'assurance pour leur trouver un contrat d'assurance le plus adapté à leur situation. Et derrière, on gère les sinistres et on gère toute la relation avec le client. Et on propose tout type d'assurance.
D'accord. Donc, expliquez-nous pourquoi c'est important d'être assuré.
Mais l'assurance est là pour le jour où vous avez une responsabilité, vous faites mal à quelqu'un, vous avez un incendie, vous perdez votre maison ou vous perdez votre voiture, vous n'aurez peut-être pas les moyens de reconstruire, de racheter une voiture ou de payer les conséquences de l'accident que vous avez causé ou des dommages que vous avez causés à autrui. Donc l'assurance est là pour, moyennant une cotisation, faire face à votre place, supporter le risque financier à votre place.
J'aimerais savoir quelle est la différence entre la responsabilité civile et l'assurance corporelle, en termes simples pour ceux qui ne sont pas familiers avec le domaine.
La responsabilité civile, c'est si vous faites mal à quelqu'un, à autrui. Donc vous causez un dommage à autrui, vous allez faire tomber le téléphone de votre ami, vous allez renverser quelqu'un en voiture, vous allez causer un dommage, c'est-à-dire un incendie, parce que vous n'avez pas éteint votre cigarette et vous l'avez mis dans la poubelle. Ça, c'est des dommages que vous pouvez causer à autrui et l'assurance est là pour y faire face. L'assurance corporelle, c'est vous protéger vous. Si demain vous avez un accident et que suite à cet accident vous ayez des séquelles, alors que ce soit au volant ou à titre particulier, en faisant du sport, l'assurance corporelle va vous indemniser et, pour votre préjudice. C'est-à-dire si demain vous avez perdu l'usage d'un bras, vous ne pourrez peut-être plus travailler correctement, vous ne pourrez plus faire votre sport favori. Et c'est un préjudice. Et l'assurance corporelle est là pour y faire face et vous indemniser pour pallier à ça.
D'accord. Et comment vous déterminez-vous le coût de l'assurance pour un individu ?
Alors l'assurance, c'est une mutualisation. C'est-à-dire que pour un risque donné, par exemple pour assurer des maisons, par rapport à la valeur de votre maison, l'assureur, c'est des actuaires qu'on appelle chez nous, font des probabilités. Et on va faire des moyennes par rapport, et avec les probabilités pour déterminer le coût. C'est-à-dire, on a le risque que 10 maisons brûlent dans nos clients chaque année. Il faut qu'on encaisse suffisamment pour pouvoir faire face à ces risques-là. Si on donc c'est de la mutualisation. Il faut qu'on détermine le plus précisément possible le coût de tous les sinistres qu'on va avoir dans l'année, par exemple en automobile, et ce qui va entraîner le prix de l'assurance. Et avec plein de facteurs différents par rapport, par exemple quand c'est de l'auto, en fonction du bonus, des risques qu'on a eus, des accidents qu'on a déjà eus. Et pour les habitations, ça va dépendre aussi de la zone climatique où l'on est. On peut être dans une zone inondable ou dans une zone à sécheresse. Et ça va impacter la tarification demain pour qu'on ait la meilleure répartition possible du coût et du risque.
Et pour un jeune conducteur, combien ça pourrait lui coûter l'assurance ? Et quels conseils donnez-vous aux jeunes conducteurs et à quoi doivent-ils faire attention pour être bien assurés ?
Alors le prix, c'est très compliqué à déterminer, comme ça, ça dépend de la voiture. Donc en fonction du véhicule, que s'il est trop puissant, les assureurs vont peut-être pas vouloir l'assurer, donc vont mettre un prix peut-être prohibitif, ou même le refuser. Donc la détermination du prix, c'est assez compliqué de vous la dire au micro. Ce qui est par contre très important, c'est de bien assurer le véhicule au nom du jeune conducteur. On a trop tendance à vouloir à utiliser le véhicule des parents, voire de mettre l'assurance au nom des parents pour pouvoir bénéficier de leur bonus. Après, la problématique, c'est que quand on fait cela, on est soit conducteur désigné, soit conducteur occasionnel. Suivant les assureurs, le terme n'est pas le même. Mais conducteur désigné ou occasionnel, ça ne veut pas dire qu'on utilise le véhicule tous les jours. Donc si on va à l'université, à l'école, avec le véhicule tous les jours, ou on le prend tous les week-ends quand on rentre sur Aubenas, parce que pour sortir, on a un véhicule, ça devient de l'habituel. C'est-à-dire tous les vendredis soirs, on prend la voiture pour aller en boîte, ou c'est de l'habituel. Donc ça, là, si on n'est pas assuré à son nom, on risque une fausse déclaration, une déchéance du contrat le jour d'un accident. Donc ça peut avoir des conséquences énormes. Donc il est important d'assurer le véhicule à son nom, quand on est jeune conducteur, si on vient à l'utiliser habituellement. Alors la plupart du temps, les assureurs, pour vérifier, savoir si c'est occasionnel ou pas occasionnel, vont contrôler combien il y a de véhicules à la maison et combien il y a de conducteurs. Si les parents ont deux véhicules et que le jeune qui arrive, jeune conducteur, ça fait trois permis, là on peut considérer que c'est de l'occasionnel puisqu'il y a un véhicule pour chaque parent et de temps en temps ils vont le prêter. Par contre, si on se retrouve avec trois permis et trois véhicules parce qu'on a acheté un véhicule pour son enfant, et même si l'enfant n'utilise pas toujours le même véhicule, en disant que chaque semaine il change, il y a un véhicule qui est réservé à l'enfant. Donc là, il faut assurer le véhicule au nom de l'enfant. Il va gagner du bonus, ça sera beaucoup plus cher en assurance que si on utilisait le bonus des parents, mais au moins, il n'y aura pas de problème le jour où il y a un accident.
J'aimerais juste revenir sur le coût d'un jeune conducteur. En fait, ça dépend de quoi précisément ? De l'âge de la personne, du type de véhicule, de...
Alors, une tarification automobile, oui, dépend de l'âge. Alors, de l'âge, c'est-à-dire souvent du bonus. C'est-à-dire qu'on acquiert du bonus au fur et à mesure de son assurance. Donc, ça tient compte aussi du véhicule, puisqu'on ne va pas assurer de la même façon une Audi qu'une Clio, par exemple. Et de la puissance. Donc, il y a plein de facteurs. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte pour la tarification, et c'est très compliqué. Même dans un même type de véhicule, par exemple sur une Clio, on peut avoir une centaine de tarifs différents, parce qu'on n'a pas les mêmes modèles. La tarification va tenir compte du véhicule, de sa puissance, de sa propension à être volé, parce que certains sont plus volés que d'autres, donc on va payer un peu plus cher. Aussi, il y a toute une classification qui est faite par rapport aux réparations. Vous avez des véhicules, pour enlever le radiateur, il faut une heure. Vous en avez d'autres, il faut deux heures. Donc ça, on va en tenir compte dans les tarifications. Donc c'est assez compliqué de déterminer. Et le jeune conducteur, mais principalement son bonus qui va jouer et ses antécédents.
D'accord. Et pour les deux roues, y a-t-il des spécificités ?
Donc c'est le même principe. Alors ce qui est encore plus important pour les deux roues, c'est de bien prendre la garantie du conducteur. Que ce soit en automobile ou en assurance deux roues, le conducteur n'est jamais couvert. C'est toujours une option, la garantie du conducteur. Ça veut dire que si on a un accident responsable et qu'on n'a pas pris l'option garantie du conducteur, on va se retrouver avec pas de garantie. Donc si on est blessé dans l'accident, si on a des séquelles, on ne touchera rien, on ne sera pas indemnisé. Donc il est très important de prendre cette garantie du conducteur, et principalement en deux roues où on est encore plus exposé.
Alors vous y êtes venu brièvement sur les deux roues, mais en cas d'accident, que dois-je faire ?
Il faut remplir un constat, le plus simple. Alors le constat automobile n'est pas obligatoire. C'est plus simple parce qu'il y a des cases, il y a plein de... On peut faire un croquis, c'est tout pas pré-rempli, mais il n'y a plus qu'à remplir toutes les cases. Donc ça évite d'oublier des choses. Mais vous pouvez venir faire une déclaration sur papier simple. Ça ne pose pas de problème. Donc, la première des choses, c'est de se mettre en sécurité lorsqu'on a un accident et ne pas rester au milieu pour pas avoir un suraccident. Et après, c'est de, avec, si vous êtes tout seul, eh ben, d'appeler l'assistance pour dépanner la voiture et par la suite, vous ferez une déclaration à votre assureur. Si vous avez plusieurs véhicules impliqués, il va falloir remplir un constat amiable avec les tiers.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre une prime d'assurance et une franchise ?
La prime d'assurance, c'est ce que vous payez. C'est-à-dire, on détermine qu'il faut 500€ pour assurer votre voiture. Donc, vous allez payer ça pour l'année. Par contre, si demain, vous avez un accident, la franchise, c'est ce qui va rester à votre charge sur le coup. C'est-à-dire, si vous avez une franchise de 500€ et que vous avez un accident responsable, il restera dans tous les cas de figure pour vos dommages, c'est-à-dire pour les dommages à votre véhicule, 500€ à votre charge. Alors, quand c'est des jeunes conducteurs, vous pouvez avoir une franchise de 1500€ pour les jeunes permis de moins de 3 ans sur certains contrats d'assurance, si le jeune n'est pas mentionné au contrat. Donc, vous allez utiliser le véhicule de vos parents. Vos parents ne vous ont pas mentionné sur le contrat et ne vous avez pas de véhicule à votre nom. Si vous avez un accident responsable, alors les 1500€, c'est même sur les dommages que l'on va. Même si vous n'avez pas de dommages sur votre véhicule, les 1500€ vont s'appliquer en responsabilité civile, les dommages que vous allez faire à autrui. Donc il va rester 1500€ à votre charge. Donc c'est ça la franchise, c'est ce qui vous reste et qui est déterminé à l'avance.
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles une demande d'assurance pourrait-elle être refusée ?
Alors, chaque assureur a ses propres règles. Par exemple, certains ne veulent pas assurer des véhicules haut de gamme, donc on pourrait vous refuser. Ne veulent pas assurer des véhicules puissants pour des jeunes conducteurs, donc là, on pourrait vous le refuser. Si vous avez eu des accidents corporels ou responsables, il y a des règles pour chaque assureur et certains pourraient vous refuser l'assurance. Si vous avez été résilié pour non-paiement, des assureurs ne veulent plus prendre ces clients-là, et si vous avez été résilié pour sinistre. Donc ça, on peut venir à vous refuser l'assurance. Alors l'assurance est obligatoire, c'est-à-dire l'assurance automobile est de toute façon obligatoire. Alors même si vous êtes le pire des conducteurs avec des dizaines d'accidents responsables, il y a le bureau central de tarification qui existe à Paris. Et là, il faut faire un dossier quand vous avez eu plusieurs refus d'assureurs. Et c'est le bureau central de tarification qui va obliger un assureur à vous prendre et qui va fixer la tarification. Par contre, il va vous obliger un assureur à vous couvrir que pour la responsabilité civile en circulation. Il n'y a que cette garantie-là qui est obligatoire. Si vous avez une voiture neuve et que vous êtes assuré par le bureau central de tarification, vous ne pourrez certainement pas l'assurer tout risque.
En termes d'assurance, est-ce qu'on est responsable de l'accident avec un véhicule autonome ?
Oui. Oui, mais on est propriétaire du véhicule, on est au volant. D'accord. Donc théoriquement, je crois que pour les véhicules autonomes aujourd'hui, on doit rester devant le volant et doit pouvoir reprendre à tout moment le contrôle. La difficulté, ça va être de prouver est-ce que c'est la machine, la voiture qui a mal fonctionné, ou c'est nous qui étions au volant et qui avons eu un accident. Parce que c'est aussi facile d'aller le mettre sur le dos de la machine. Donc aujourd'hui, pour moi, on est responsable et c'est l'assurance qui va intervenir. Après, il y aura peut-être des procédures entre assurances, c'est-à-dire entre votre assurance et l'assurance du constructeur pour essayer de déterminer les responsabilités de chacun.
Existe-t-il une différence d'assurance entre un véhicule à essence et un véhicule électrique ? Expliquez-nous pourquoi et comment vous évaluez la tarification du coût d'assurance.
Ah oui, il y a une différence entre un véhicule classique et un véhicule électrique. Parce qu'aujourd'hui, le véhicule électrique coûte beaucoup plus cher. Il y a le prix des batteries. Donc ce prix des batteries surenchérit le coût. Et on a une problématique au niveau des réparations. C'est-à-dire que suivant les batteries, lors d'un choc, on a parfois l'obligation de mettre le véhicule en épave, même si vous avez un petit choc. Parce que si les batteries sont susceptibles d'avoir été touchées dans l'accident, on ne peut pas prendre de risque qu'il y ait un incendie ou qu'il y ait un défaut par la suite. Donc la voiture est plus souvent mise épave, même s'il n'y a pas grand-chose. Et après, les constructeurs, vous avez des... Alors, je ne connais pas grand-chose en batterie, mais à première vue, il y a des batteries, c'est d'un seul bloc. Donc, vous pouvez avoir juste un bout de la batterie qui est touché, mais comme une batterie d'un véhicule, c'est un ensemble de petites batteries, même si vous n'en avez qu'une petite qui est touchée, il faut changer l'ensemble. Donc, après les véhicules électriques, vous avez des... C'est que dans des garages spécialisés avec des personnes formées. Donc, ça coûte beaucoup plus cher à la réparation parce que c'est des spécialistes qui peuvent toucher votre véhicule. Donc, automatiquement, ça va coûter plus cher et c'est pour ça que l'assurance derrière coûtera plus cher.
Et en termes d'assurance, comment ça se passe quand on va à l'étranger ?
Alors aujourd'hui, on a la carte verte sur son pare-brise. Et quand on va à l'étranger, on va remplir un constat. Hein. En Europe, les constats sont standardisés. Et on va remplir un constat avec le tiers. On va mettre ses coordonnées, on pourra justifier de son assurance à l'étranger avec la carte verte. Alors la carte verte automobile va être supprimée en avril 2024. D'ici là, il y aura peut-être d'autres systèmes pour vérifier que vous êtes assuré. Donc il y a un constat qui se fait avec... Le véhicule étranger. Et après, ça se passe entre assurances des deux pays. Mais ça se fait de la même façon qu'en France.
Très bien. Je vous propose maintenant de parler des nouveaux modes de déplacement. Avant de vous redonner la parole, nous allons écouter un reportage réalisé pendant la semaine de la mobilité. C'était la semaine dernière, la communauté de communes du bassin d'Aubenas, en charge de l'aménagement des voies vertes, elle a décidé de participer à cette opération nationale.
On a souhaité s'inscrire dans le cadre de cette semaine européenne de la mobilité.
Hélène Noaret, directrice des services techniques de la communauté de communes du bassin d'Aubenas.
Parce qu'avec tout le réseau de voies douces qu'on est en train de créer sur le bassin d'Aubenas, il nous a semblé important de sensibiliser en fait les gens et de faire connaître ce réseau, d'encourager d'autres pratiques de mobilité afin que les gens limitent leurs déplacements en voiture.
Et qu'est-ce que vous avez prévu pour cette semaine de mobilité ?
Alors cette semaine, on a plusieurs événements. Tout au long de la semaine, en fait, avec la région et tout en bus, le réseau de transport, en fait, on fait des quiz. Ensuite, mercredi, on a fait une action en faveur des jeunes. Donc à la médiathèque Jean Ferrat, il y avait des petits ateliers pour apprendre aux petits tout ce qui est sécurité routière.
Bonjour, donc je m'appelle Célie Vielfort, je travaille à la médiathèque et je suis chargée des animations. Et donc aujourd'hui, on fait une première journée un peu événement à la médiathèque, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. Sur le parking, on fait un atelier pour mieux apprendre aux enfants à maîtriser leur vélo, à maîtriser l'équilibre. Et à l'intérieur de la médiathèque, il y a l'intervention de la ludothèque intercommunale qui a amené beaucoup de jeux sur la motricité, les mobilités, des jeux sur les transports, aussi pour avoir un côté un peu plus ludique.
Donc pourquoi vous proposez ce genre d'atelier ?
Déjà, on souhaitait donc participer à cette semaine européenne de la mobilité et plutôt nous, du coup, être sur le public jeunesse qu'on côtoie beaucoup à la médiathèque aussi. Et donc voilà, de proposer cet atelier qui sort un peu de ce qu'on fait aussi d'habitude, mieux maîtriser son vélo, parce que c'est très important que ce soit pour l'apprentissage des enfants ou que ce soit pour la sécurité ensuite.
D'accord, donc c'est super intéressant pour les jeunes, mais que prévoyez-vous pour la sécurité ?
On a moins travaillé sur ce volet sécurité. Là, pour l'atelier maniabilité sur le parking, c'est casque obligatoire, bien sûr, pour prendre les bonnes habitudes, puisque c'est obligatoire aussi, dès le plus jeune âge. Et de toute façon, de mieux maîtriser son équilibre, sa direction, de mieux maîtriser son vélo, c'était de toute façon nécessaire pour ensuite partager la route avec les autres véhicules.
Alors bonjour, moi je suis Violaine Berger, du coup je suis conseillère informatrice jeunesse à InfoJeunes Sud Ardèche. C'est un service du coup qui est à destination des jeunes de 13 à 30 ans et qui est porté par la mission locale d'Ardèche méridionale. Et on traite aussi de mobilité, des aides qui sont possibles sur la mobilité, sur les aides au permis. Et du coup aujourd'hui je suis présente plus pour présenter des solutions de mobilité, donc ça va être tout ce qui est bus, tout ça, et aussi toutes les aides à destination des jeunes pour le financement du permis. Et du coup, moi, je suis présente avec un camping-car qui est itinérant, donc c'est aussi une solution pour pallier à certains problèmes de mobilité, puisque ce ne sont pas aux jeunes à devoir se déplacer, mais c'est moi qui me déplace pour aller au-devant des jeunes.
La communauté de communes a aussi organisé pendant cette semaine de la mobilité un atelier à destination des seniors pour découvrir les vélos à assistance électrique et expliquer les nouveaux panneaux qui sont apparus avec les nouveaux modes de déplacement.
Avec tous ces nouveaux aménagements cycles, il y a effectivement des nouveaux panneaux qui sont posés en ville. Alors les jeunes vont l'apprendre dans le cadre de leur permis de conduire, mais c'est vrai que les personnes qui ont eu leur permis depuis plus de 10 ans, il faut aujourd'hui aller voir cette évolution sur Internet ou se renseigner un petit peu pour apprendre à reconnaître et à respecter les nouveaux panneaux et toute la réglementation qui va avec.
La communauté de communes a aménagé les voies vertes du bassin d'Aubenas. Comment veillez-vous à la sécurité des usagers ?
Alors déjà, ces voies vertes, c'est une appellation officielle qui correspond à des normes. Et sur ces voies vertes sont interdits tous les véhicules motorisés. C'est pour ça que vous pouvez circuler à pied, en vélo ou maintenant en trottinette de moins de 25 km en toute sécurité, puisque vous êtes sûr que vous ne rencontrerez jamais de voiture. Donc c'est vraiment, on aménage ces voies vertes pour favoriser la sécurité à vélo. Voilà, après, il y a tout un type d'autres aménagements. Vous avez des pistes cyclables. Vous avez ce qu'on appelle des zones 30 en ville, où en fait le vélo est prioritaire sur les véhicules. Mais tout ça, ça s'apprend aussi. Il faut que les automobilistes changent aussi leur comportement. Parce que des fois, circulent sur la même route, vélo et voiture. Et il faut que tout le monde respecte le code de la route, y compris les cyclistes.
Nous sommes toujours sur Info RC pour cette interview dédiée à la sécurité routière. Nous sommes en compagnie de Yann Barakan, assureur, et nous allons maintenant parler des nouveaux modes de déplacement, que ce soit vélo, trottinette électrique, voiture sans permis. Monsieur Barakan, je vais vous poser la question, est-ce qu'on doit être assuré pour ce genre de véhicule et que doit-on prendre comme type d'assurance ?
Tout véhicule à moteur autoporté doit être assuré. C'est-à-dire les trottinettes électriques, les gyropodes, les voitures sans permis, tout ça, ça a une obligation d'assurance. Le vélo n'a pas d'obligation d'assurance, sauf si ce vélo est à assistance électrique et a une puissance de plus de 250 watts qui a une carte grise. Là, il aura une obligation d'assurance. Dans les autres cas, non. Donc, quand il y a une obligation d'assurance, on en a déjà parlé avant, c'est la responsabilité civile qu'il faut qu'on prenne pour pouvoir couvrir si demain on renverse quelqu'un. Donc une trottinette électrique, même à 200 €, la plus petite des trottinettes, a une obligation d'assurance. Et au moins pour la responsabilité civile, pour les dommages aux autres. Après, il peut être important d'assurer, ce qu'on a déjà parlé aussi, la garantie du conducteur, parce que si demain on a un accident avec la trottinette ou la voiture sans permis, mais d'être protégé, parce que la voiture ou la trottinette, c'est peut-être pas très grave, mais c'est être protégé pour... tous ces dommages corporels, c'est très important. Le vélo, il n'y a pas d'obligation d'assurance, donc s'il n'est pas immatriculé. Par contre, ce qui peut être intéressant aujourd'hui de prendre, c'est d'assurer son vélo en tout risque et en tout lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les vélos ont une grande valeur, les vélos électriques, et on a de plus en plus de vols. Donc vous êtes assuré pour votre vélo électrique ou votre trottinette s'ils sont volés dans votre garage et qu'il y a une effraction. Par contre, si on vous vole, pendant que vous êtes en cours, vous les accrochez devant le lycée et qu'on vient vous voler le vélo, il n'y a pas de couverture. Alors si c'est un vélo à quelques centaines d'euros, c'est dommage, mais bon, voilà. Par contre, si c'est un vélo électrique qui vaut plusieurs milliers d'euros, ça peut être intéressant d'aller l'assurer pour le vol ou même en dommage, c'est-à-dire si vous avez un accident, on va payer le vélo s'il est réparable.
On voit de plus en plus de jeunes qui utilisent des voiturettes électriques. Comment doivent-ils s'assurer ?
Même principe, il faut s'assurer en responsabilité civile, protection du conducteur, et l'assurer la voiture. Alors, en dommage tout accident, on appelle ça, c'est le tout risque, communément, et parce que c'est des voitures qui valent un certain prix aujourd'hui.
Quel problème le plus fréquent rencontrez-vous par rapport à ce type de véhicule ?
Alors, le problème des voiturettes, c'est qu'il n'y a pas de permis. Et le souci, c'est par rapport au code de la route, par rapport à... Il y a des fois des lacunes. Et après, ces voiturettes, alors aujourd'hui, les jeunes les utilisent, mais il y a quelques temps, et elles sont encore utilisées par des personnes qui ont eu des retraits de permis pour alcool, pour stupéfiants ou pour excès de vitesse. Donc c'est parfois le seul moyen de se déplacer pendant un certain laps de temps.
Et est-ce que l'on peut prendre une assurance en tant que piéton ?
Piéton, il n'y a pas d'obligation d'assurance. Oui. Après, il peut être important d'être assuré en, on appelle ça une individuelle accident. Si demain, si demain vous êtes renversé en tant que piéton et que la voiture ou le camion ou s'arrête, on a un tiers identifié. Donc là, vous serez indemnisé. Par contre, si vous êtes renversé, ou que ce soit en vélo ou en tant que piéton, et que la personne fait un délit de fuite et qu'on n'arrive pas à la retrouver, il n'y aura pas d'indemnisation puisqu'on n'a pas de tiers identifié. Donc on peut souscrire des accidents. Alors ça couvre, c'est les garanties des accidents de la vie privée qui peuvent couvrir tous les accidents que vous allez subir et qui prévoient le versement d'un capital, un individuel accident, d'un capital en cas d'invalidité suite à cet accident. Donc ça, c'est conseillé.
Et pour le covoiturage et les véhicules partagés, comment ça se passe ?
Alors, il n'y a rien à faire. Tout est couvert automatiquement parce que avec une assurance automobile, les passagers sont automatiquement couverts. Il n'y a que le conducteur, ce que je vous disais tout à l'heure, qui n'est pas assuré. Là, il faut absolument prendre une option pour couvrir le conducteur en cas d'accident et si le conducteur est blessé en cas d'accident responsable. Mais que ce soit en covoiturage ou véhicule partagé, tous les passagers seront automatiquement couverts par l'assurance du véhicule.
D'accord. Et j'ai pu lire que l'on pouvait assurer son drone. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Alors le drone, c'est pareil, il y a une obligation d'assurance parce que s'il retombe et il retombe sur quelqu'un ou sur une voiture ou il casse quelque chose, il faut payer les conséquences. Donc, il faut vérifier que votre assurance responsabilité civile qui est dans votre contrat habitation couvre les dommages faits par le drone. Sinon, il faudra prendre une assurance spécifique pour le drone. Tout ce qui est entreprise, tout ce qui est drone utilisé à titre professionnel doit avoir sa propre assurance. Quand c'est un jeu pour un enfant, un petit drone, il faut vérifier que son assurance habitation le couvre. Sinon, il faudra prendre une assurance aussi.
Donc, je pense qu'on a fait le tour d'une grande partie des interrogations des auditeurs. Merci, Monsieur Barakan, d'avoir répondu à toutes nos questions sur la sécurité routière. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site internet de la radio www.inforc.fr. Restez avec nous sur le 88.6 et le 97.2. Tous en mode bonne conduite. Soyez prudents sur la route. Les accidents de la route tuent 1,35 million de personnes dans le monde chaque année, soit un mort toutes les 21 secondes. Du 1er octobre au 1er novembre, retrouvez des interviews, reportages, messages d'information et de prévention sur InfoRC. Tapez www.inforc.fr pour retrouver la web radio. 88.6 et 97.2 pour retrouver les fréquences d'InfoRC. Tous en mode bonne conduite, une action soutenue par Point S, la carrosserie Vernet et la préfecture de l'Ardèche.